Bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur l'émission radio Les Engagés, avec Léane Ricardo et Héloïse Posy, deux étudiantes en BUT carrière sociale. Nous allons échanger sur le thème de la proximité avec les jeunes dans les quartiers prioritaires. Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour votre présence. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Oui, bonjour. Donc moi, je m'appelle Marie. Je travaille effectivement sur les quartiers prioritaires de la ville de Cholet, sur un poste de conseillère de proximité sur les quartiers pour la mission locale du Choletais. Donc moi, j'interviens plus particulièrement pour le repérage et la remobilisation des jeunes entre 16 et 30 ans sur ce territoire-là.
Alors, merci pour votre présentation. Et du coup, pour l'interview, on aurait quelques questions à vous poser sur votre parcours, ce que vous faites actuellement. Et du coup, on voulait savoir comment vous en êtes arrivé là, le parcours que vous avez eu avant d'accéder au poste que vous avez actuellement.
D'accord, et ben j'ai un parcours, on va dire, un petit peu hétéroclite. Enfin, je suis passée par plusieurs postes avant d'arriver ici. En fait, à la base, quand même, j'ai une formation d'éducatrice spécialisée, moi. Et j'ai travaillé de nombreuses années dans le champ de la protection de l'enfance, donc dans le cadre de mesures judiciaires qui étaient exercées à domicile, ordonnées par le juge des enfants, voilà, pour des 0-18 ans. Avant ça, quand même, avant de passer mon diplôme d'éducatrice, je me suis lancée dans ce métier-là puisque j'avais vraiment une prédisposition pour travailler auprès des jeunes, déjà. Je me destinais au départ à être enseignante. Et puis, au fil du temps, j'ai eu la chance de pouvoir donner des cours à des élèves qui étaient hospitalisés en hôpital psychiatrique. Voilà. Et puis, je suis aussi partie pendant un an et demi travailler auprès de jeunes qui étaient confiés à l'aide sociale à l'enfance et qui partaient en séjour de rupture à l'étranger. Donc voilà, ce parcours-là m'a permis ensuite d'avoir envie de passer le diplôme d'éducatrice. Et puis, au bout de 12 ans de travail en protection de l'enfance, j'ai eu envie de changer de cadre de travail, d'aller vers autre chose. Et donc, j'ai postulé sur ce poste de chargée de mission, là, la mission locale du Choletais, aussi dans l'idée de donner un petit virage à ma carrière et puis de continuer à intervenir auprès des jeunes. Parce que, en fait, c'est ce que je sais faire et puis c'est ce qui me plaît aussi.
D'accord, voilà. Oui. Donc vous avez toujours eu une prédisposition à être avec ce public, à les accompagner, et toujours avec les jeunes en général.
Voilà, tout à fait. En fait, c'est ce que je pratique depuis des années et ce qui me plaît toujours aujourd'hui. Peut-être que dans quelques années, j'aurais envie de me tourner vers un autre public. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai toujours la foi de travailler avec les jeunes. Et puis, je trouve que travailler avec des jeunes, c'est aussi rester dans une forme de dynamisme, de s'informer aussi sur comment va la jeunesse, où ils en sont. Et c'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà.
Mais du coup, quand vous travaillez avec les jeunes, comment vous faites pour vous mettre en relation avec eux ?
Alors, il y a différents moyens de se mettre en relation avec eux. Moi, j'ai différents modes d'approche, en fait, pour le repérage de ces jeunes. J'ai toute une partie de mon travail qui est du travail de rue, c'est-à-dire que je m'associe à tout ce qui existe déjà sur les quartiers à Cholet, c'est-à-dire je vais travailler avec les animateurs de centres sociaux. On peut aller faire ce qui s'appelle de la déambulation dans la rue pour aller au contact des jeunes, discuter avec eux, voir où ils en sont de manière plutôt générale. C'est vrai qu'on a souvent des représentations aussi quand on parle jeunes de quartier. On se dit c'est les jeunes qui zonent dans la rue, ils vont nous envoyer bouler si on s'approche d'eux. On se rend compte que c'est pas vraiment le cas, en fait. Ces jeunes-là, ils attendent aussi qu'on s'approche et qu'on essaie de comprendre où ils en sont. Ils sont tout à fait OK et contents qu'on vienne discuter avec eux. Bon, certaines fois, ils n'ont pas envie du tout, c'est normal, mais bon, comme tout le monde, quoi. Et aussi, en termes de représentation, ce qu'on peut dire, c'est que souvent, on se dit, les jeunes de quartier, c'est que des jeunes qui traînent, qui dealent. Et en fait, pas du tout. C'est vrai que dans les quartiers, il y a tout type de population, comme dans n'importe quel autre petit village, je dirais. Il y a des jeunes qui attendent que ça se passe dans la rue, mais il y en a d'autres qui sont aussi chez eux. Donc ceux-là, qui sont un petit peu enfermés chez eux, on va dire, et qui font rien. Et ceux-là, pour les repérer, c'est un peu plus compliqué, parce qu'ils ne sont pas sur l'espace public. Donc pour repérer cela, eh ben, je travaille avec d'autres partenaires qui sont par exemple l'éducation nationale, encore les centres sociaux, les éducateurs aussi de rue, parce que sur Cholet, il y a deux quartiers prioritaires où intervient la prévention spécialisée. Donc eux, ils connaissent bien les familles. Donc du coup, j'interviens aussi avec eux. Voilà. Et puis je travaille beaucoup aussi en lien avec mes collègues qui peuvent me dire, ah bah tiens, j'accompagne un jeune depuis quelques années ou quelques mois, et puis là, il ne vient plus, je ne sais pas ce qu'il fait, il ne me répond pas à mes messages. Donc moi, je peux éventuellement me remettre en lien avec ces jeunes-là.
D'accord. Du coup, vous avez parlé, vous avez énoncé le fait que pour les jeunes des quartiers, souvent, il y avait des stéréotypes auxquels ils faisaient face. Et du coup, est-ce que vous, en tant que professionnel, vous avez des stéréotypes auxquels vous faites face et du coup, des difficultés en lien avec les stéréotypes?
C'est-à-dire, moi, de mon point de vue de professionnel,
oui.
Est-ce que je peux avoir certains a priori par rapport aux jeunes?
En fait, ce que je voulais dire, c'est plus, est-ce que les stéréotypes de la société peuvent interférer dans votre travail?
Alors, je ne sais pas trop comment répondre à cette question-là, c'est-à-dire... quand j'arrive pour discuter avec un jeune, je vais pas me dire bah tiens il est celui-ci, il est comme ci, il est comme ça. En fait, ce dont on se rend compte quand on rencontre les jeunes, c'est qu'ils sont pas les mêmes du tout en groupe déjà que quand on discute tout seul avec eux, hein, parce qu'il y a toujours cette idée de voilà de la représentation qu'ils peuvent avoir aussi des professionnels qui viennent à leur rencontre, et puis de l'idée de voilà de montrer aux autres que ça nous intéresse pas. Voilà, après en termes de représentation, enfin de stéréotypes, je saurais pas répondre vraiment à votre question. Quel type de stéréotype en fait?
C'était des représentations auxquelles vous pouvez faire face, et aussi par exemple des personnes qui sont des jeunes qui peuvent être victimes de discrimination justement parce que c'est des jeunes de quartier et que ça peut justement interférer dans votre travail dans la mesure où ils vont peut-être aussi eux-mêmes se freiner par rapport au fait que c'est les jeunes de quartier et qu'ils sont destinés à quelque chose.
Oui, je comprends mieux. C'est-à-dire, vous voulez savoir si quelquefois... Oui, ça m'arrive, par exemple, de rencontrer des jeunes qui me disent « Mais non, mais de toute façon, on ne voudra pas nous embaucher. » Ou même, j'ai des discours quelquefois qui sont « Oh, bah oui, mais enfin bon, ce que vous nous proposez, on sait ce que c'est. » C'est plutôt eux qui vont avoir des représentations aussi sur le monde du travail. Et que nous, on va devoir un petit peu déconstruire petit à petit en discutant avec eux, mais aussi d'autres sujets, quoi. Parce que l'idée, c'est pas de leur sauter dessus sur « on va te trouver un boulot et puis tu vas faire autrement la semaine prochaine, quoi. » C'est plus de leur expliquer que, quelquefois... ils se représentent que parce qu'ils sont du quartier, parce qu'ils parlent comme si, on va pas vouloir d'eux. Alors ça peut être vrai, hein, dans certains endroits ça peut être compliqué, hein, mais aujourd'hui quand même nous on leur explique que de plus en plus le monde du travail s'ouvre à tout profil de jeunes, surtout sur notre bassin d'emploi où il y a beaucoup de travail quand même. Donc les entreprises essayent de s'adapter aussi beaucoup au profil des jeunes.
Ok. Et pour venir en aide à ces jeunes, vous les accompagnez, mais vous avez un accompagnement spécifique ou ça dépend de chaque personne? Comment vous faites?
Alors oui, exactement, j'ai un accompagnement spécifique pour chaque personne. C'est-à-dire qu'en fait, quand je rencontre un jeune, en fonction de sa problématique, je vais faire une sorte de petit diagnostic, hein, de me dire, il me dit ça, je tire le fil de ce qu'il me dit, j'essaye d'aller un peu explorer là où il en est. Et puis ensuite, en fonction d'où il en est, je vais lui proposer, je vais voir de quoi il a besoin, hein, et puis je vais pouvoir lui proposer quelque chose qui est vraiment adapté à lui, à sa personne. Au tout départ, quand j'ai commencé ce poste, moi, mes missions, c'était de proposer des activités un petit peu innovantes pour des groupes de jeunes qui sont un peu là, à rien faire, voilà. Et puis, je me suis rendu compte au fil de mon action qu'en fait, la plupart de ces jeunes, ils me demandaient plus de l'accompagnement individuel, de les aider à faire des démarches, les emmener à un endroit, des trucs tout bêtes, hein, les emmener à Pôle emploi, par exemple, parce qu'on leur dit d'y aller, mais ils passent pas la marche, en fait, de rentrer, parce que ça leur fait peur, parce qu'ils comprennent pas tout ce qu'on leur explique, parce que, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment du sur-mesure. Je peux même faire aussi des accompagnements au domicile, c'est-à-dire d'aller rencontrer ces jeunes chez eux, alors toujours en s'assurant, voilà, que je vais pas me mettre en danger, donc souvent c'est en binôme avec quelqu'un d'autre, hein, en fait. Mais si on veut aller chercher les jeunes qui sont en galère et qui sont enfermés chez eux depuis des mois, comment faire autrement que d'aller leur parler au moins s'ils sont d'accord, si les parents sont d'accord, enfin voilà.
D'accord, merci pour votre réponse en tout cas. Et est-ce que vous avez une journée un petit peu type que vous faites ou c'est vraiment assez aléatoire ?
Alors j'ai absolument pas de journée type. Hein. Voilà, d'une journée à l'autre... Tout peut être modifié. Si j'ai prévu, par exemple, de faire de la déambulation un après-midi sur un quartier, mais qu'un jeune m'appelle et qu'il a besoin qu'on se voit, ou voilà, je peux modifier mon emploi du temps. Voilà, c'est une des particularités aussi de mon poste, c'est que j'ai un champ d'action assez libre quand même. Hein, donc voilà, je peux modeler et adapter mon emploi du temps.
Ok. Et il se peut que...
Comme mentor, c'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche Neige et les sept nains. Maintenant les nains, on giclait Blanche Neige et tape éclate, des types claquent dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd dans des booms qui sont désormais des soirées, plus de sirop dessert. Petit frère veut des pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de sept lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
Rêve de bagnole, de fringues et de thunes, de réputation, de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Il collectionne les méfaits, sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait. De donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames de l'Afrique. Plus de cartables, il ne saurait pas quoi en faire. Il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier, pensez au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de sept lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
Les temps ont changé.
Demain tout ira mieux, tu verras.
Les journalistes font des modes, la violence à l'école existait déjà. De mon temps, les rackets, les bastons, les dégâts, les coups de patte dans les pare-brises, des tirs des instituteurs, embrouille à coups de cutter. Mais en parler au journal tous les soirs, ça devient banal. Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait, mais là ces journalistes ont fait des états. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant. juste surexposé à la pub aux actes violents. Pour des grandes gosses et de meilleurs citrons, la cible numéro 1, le terrain des produits de consommation. Et pour être sûr qu'ils s'en procurent, petit frère s'assure flingue à la ceinture.
On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes. Petit frère le sait et garde ce fait en tête. L'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures. Le grand standing et tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Armani. Soucieux du regard des gens, malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes. Il vient.
Merci en tout cas pour toutes vos réponses. On voulait savoir à peu près quels sont les points positifs et les points négatifs que vous observez dans votre métier.
Alors spécifiquement sur ce poste-là, je dirais que les points plus négatifs, c'est que ça demande beaucoup d'énergie en fait, parce que on doit sans cesse essayer de réfléchir à des nouvelles stratégies, voilà, parce que en fait c'est typiquement un poste sur lequel on teste des choses et on voit si ça fonctionne et on doit se réajuster. Alors c'est pas nécessairement vraiment négatif, mais c'est plus en termes d'énergie que ça demande, hein. Après, le positif, ben, c'est la rencontre, parce que je rencontre énormément de gens, pas que des jeunes. Je rencontre aussi plein de gens qui travaillent au contact des jeunes et des moins jeunes dans les quartiers. Enfin, voilà, ça, c'est un aspect de ce travail qui est vraiment passionnant, à mon sens, et puis qui permet aussi de réfléchir ensemble à « Ah ben tiens, on pourrait... » organiser quelque chose ensemble, on a un petit peu les mêmes idées, voilà, toi t'as telle compétence, moi j'ai celle-ci, on se met ensemble, on réfléchit et puis on y va, quoi.
Il y a un vrai esprit de solidarité vraiment du coup entre les...
Ben ouais, en fait l'idée c'est qu'on aille tous dans le même sens, dans le sens d'aider ceux qui sont les plus en difficulté, hein. Alors sur les quartiers, c'est vrai qu'on a aussi toute une partie du travail autour de accompagner certains jeunes qui parlent très peu notre langue. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui se développe beaucoup sur le Choletais. C'est-à-dire, on essaie de bricoler, entre guillemets. Je dis bricoler parce que c'est un peu ça au début quand on expérimente. On teste des nouvelles façons de leur proposer des temps d'apprentissage un peu plus sympas que d'être sur des cours de français, voilà. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place, il y a plein de belles initiatives en fait, hein, voilà.
Mais du coup, comme vous venez de dire que vous vous retrouvez avec des personnes qui ne parlent pas forcément votre langue, est-ce que par exemple ça peut représenter une charge mentale qui est quand même assez conséquente pour vous, ou vous en sortez quand même assez bien?
Alors, je dirais pas ça, parce qu'en fait, il y a tellement de professionnels qui peuvent intervenir auprès de ces jeunes-là. Et en plus, c'est pas la majorité des jeunes que j'accompagne. Moi, j'accompagne essentiellement quand même des jeunes qui maîtrisent très bien la langue. Je dirais pas que ce soit compliqué, parce qu'au contraire, encore ce midi là, j'étais sur un centre social à Cholet et j'ai croisé un jeune que j'avais vu sur un atelier cuisine pour apprentissage de la langue dans le centre social au mois de décembre, et je l'ai recroisé là cet après-midi et je lui ai dit oh, les progrès que tu as fait en français, c'est énorme. Enfin voilà, donc en fait, c'est pas une charge, non. Et puis quelquefois ça peut être sympa aussi, parce que moi, de par mon passé, je pratique aussi couramment l'espagnol, et donc je peux discuter avec certains jeunes en espagnol qui ont fait un petit passage par le pays, donc voilà, moi ça me plaît beaucoup ça.
En fait, la charge mentale, je pense on s'est peut-être un petit peu mal exprimé, c'était plus par exemple quand vous rentrez chez vous, est-ce que le travail, vous ressentez quand vous êtes chez vous dans votre vie personnelle que vous êtes fatigué, que ça vous épuise vraiment mentalement, que vous ressentez en fait cette charge encore chez vous dans votre vie personnelle?
Alors sur les missions que j'exerce aujourd'hui, beaucoup moins que quand je travaillais en protection de l'enfance, où là je rentrais chez moi avec des situations vraiment complexes, d'enfants qui pouvaient être potentiellement en danger. Alors ça peut être encore aujourd'hui le cas, hein. Je peux avoir des situations de jeunes qui sont vraiment dans des galères. Après, je dirais que j'ai l'impression qu'on on arrive, tout autant qu'on est les professionnels de terrain, à pouvoir essayer d'être au plus près de leur accompagnement et puis de les aider à aller vers les bonnes personnes, même si il y a plein de fois où c'est pas satisfaisant. Mais je rentre pas chez moi avec un poids où je me dis oh là là, voilà. Quelques fois, hein, mais pas, c'est pas quelque chose de récurrent en tout cas.
D'accord.
Voilà.
Ok. Et quand on vous écoute, on a vraiment l'impression que vous êtes passionnée par ce que vous faites et que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et du coup, est-ce que vous avez des qualités nécessaires pour travailler dans ce que vous faites ou...
Alors, c'est toujours difficile de parler de ses qualités. Hein. Mais bon, je pense que je suis quelqu'un quand même qui s'adapte facilement à de nouveaux milieux. Et puis, je pense qu'il faut aimer les gens, hein, tout simplement, aimer rencontrer des gens. Il faut quand même une certaine forme de dynamisme et d'autonomie, hein, parce que bah, quelquefois, quand tu lances un truc, voilà, il faut aller jusqu'au bout, un peu de persévérance aussi. Hein, voilà, ça fait beaucoup de qualité, ça.
Est-ce que, du coup, vous nous avez parlé de votre parcours avant, comme quoi vous étiez dans la protection de l'enfance, et est-ce que vous avez des projets à venir? Est-ce que vous voulez continuer sur la mission que vous faites, ou est-ce que vous avez d'autres projets
Alors, bah là, j'ai appris il y a peu de temps que j'allais rester sur le poste que j'occupe actuellement, parce que là, j'étais sur une mission de 18 mois, et je vais rester donc sur ce poste-là, donc j'en suis... satisfaite. Après, j'aimerais bien pouvoir me former un petit peu plus spécifiquement à tout ce qui est gestion de projet, parce que c'est pas quelque chose qui s'improvise non plus. Donc voilà, c'est un petit peu la suite dans les prochains mois, prochaines années. Mais j'exclus pas dans quelques temps peut-être d'aller vers un autre public aussi. Hein, voilà.
Vous êtes ouverte à différents publics, vous n'êtes pas fermée sur un type de public?
Bah, en fait, comme j'ai travaillé auprès des jeunes toute ma carrière, j'ai eu quelques petites expériences auprès des personnes âgées quand j'étais étudiante. Et je me dis, bah, pourquoi pas un jour aller vers ce public-là qui m'avait beaucoup touchée aussi. Et voilà, peut-être.
D'accord, bah, merci beaucoup en tout cas.
Si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas.
Mais non, mais je vous remercie aussi.
Hein, bah, merci à vous.
Merci beaucoup, en tout cas, pour l'échange. Ça nous a vraiment permis d'en découvrir plus, d'apprendre plus sur vous, votre métier, et puis surtout le public.
Oui.
Parce qu'on ne parle pas assez des jeunes, des jeunes de quartier. Et au moins, ça déconstruit un petit peu les représentations que certains peuvent avoir.
Oui, bah, j'espère que ça vous aura permis de, voilà, de mieux cerner un petit peu ce qu'on peut y faire concrètement. Mmh.
Et la diversité justement des projets qui peuvent être menés, donc c'est positif.
Très bien, merci beaucoup.
Bah, merci, merci à vous. En tout cas.